Je suis avec mon fils, moi j'aimerais bien qu'il se sociabilise, qu'il rencontre d'autres enfants. Moi j'en ai marre aussi d'être seule et je me dis, il y a bien des mamans ou des papas qui sont tout seuls avec leurs enfants comme moi qui ont dû arrêter de bosser.
Réinvention.
Elle me fascine par son énergie, sa détermination et sa volonté de faire bouger les lignes. Je la suis sur Instagram depuis 2019 et le début de son aventure. Et sa résilience à toute épreuve m'inspire depuis qu'elle s'est lancée. Elle, c'est Marine Alary. Elle a passé plus de 8 ans en entreprise et en cabinet d'audit, dont un Big Four, pour ceux à qui ça parle. La finance et les chiffres, c'était son quotidien. Et elle a décidé de devenir freelance en continuité de son activité. En même temps, elle déménage à Bordeaux et devient maman. Et là, elle sent qu'il y a quelque chose qui coince. Elle ne trouve pas de mode de garde pour son petit garçon, alors qu'elle souhaite développer son business. C'est un mélange de frustration et d'interrogation. Marine se rend compte qu'elle n'est pas la seule dans cette situation. Alors, pour répondre aux besoins de toutes les mamans qui se trouvent dans la même situation qu'elle, elle développe le concept Moverock Community, qui deviendra ensuite le cocon. Un espace de travail qui fait bouger les lignes, car en plus de l'espace coworking pour les mamans entrepreneurs et freelance, elle y inclut une crèche. C'est la réinvention de l'espace de travail avec une crèche adossée. J'ai donc la joie de recevoir Marine à mon micro pour te montrer une nouvelle facette de la réinvention. On aborde son parcours, ses questionnements et ce qui l'a poussé à réinventer son métier et de faire parler les chiffres autrement avec le cocon. Allez, je laisse place à notre conversation.
Hello Marine, j'espère que tu vas bien. Je suis hyper contente de t'accueillir sur le podcast. J'aime bien commencer ma première question en te demandant, tout commence par un rêve. Quel est le tien, Marine?
C'est une très belle question. Tout d'abord, déjà, je te remercie, Nathalie, pour échanger aujourd'hui et me permettre d'en dire davantage sur cette aventure entrepreneuriale. Quel est mon rêve? Je dirais que le premier rêve de tout être, c'est de s'épanouir, autant dans la vie personnelle que professionnelle.
Et c'est déjà beau, s'épanouir. Je pense que tu vas nous en parler un peu plus parce que c'est de s'épanouir et tu vas nous expliquer comment tu vas aider d'autres personnes et notamment des mamans entrepreneurs à s'épanouir. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es en nous expliquant peut-être ou en intégrant le mot réinvention dans ta présentation? Par exemple, avant j'étais à Paris et je me suis réinventée, je suis maintenant à Bordeaux ou comme tu veux, mais en tout cas qui est un petit peu le mot réinvention parce que c'est le nom de ce podcast.
Je suis Marine, je suis maman de 2 enfants de 5 ans et 2 ans. Et avant, j'étais salariée dans un cabinet d'audit qui fait partie des Big Four, ou ce qu'on appelle les 4 premiers plus gros cabinets d'audit au monde. Et maintenant, je suis chef d'entreprise. Donc, ma réinvention est de passer d'un statut salarié gros groupe à je suis passée aussi par le freelancing et maintenant, me voilà chef d'entreprise avec 6 salariés.
Hyper admirable, avec un accent aussi chantant. Parce que je sais que tu étais avant à Paris. Est-ce que tu es du coup du sud originaire ou tu as pris l'accent dans ta réinvention aussi?
Alors, j'étais pas à Paris, j'étais à Lille pendant 8 ans.
Ah, ok.
Et je suis originaire de Toulouse.
Ah, d'où l'accent.
Exact. Et puis, je suis à Bordeaux depuis maintenant, ça va faire 4 ans.
Génial. Et justement, à Bordeaux, est-ce que tu peux nous dire ce que tu y fais précisément et nous parler peut-être eh bien, du cocon? Qu'est-ce que c'est et comment tu l'as créé?
Je suis à Bordeaux depuis, on va dire, l'été 2019. En fait, avec mon mari, on voulait aller dans le sud-ouest, se rapprocher notamment de ma famille qui est à Toulouse. Et lui avait fait ses études à Bordeaux, donc on s'était dit Bordeaux, c'est un bon compromis puisque lui devait se déplacer entre Paris et Lille pour sa boîte. Et donc, on a migré à Bordeaux, ville qu'on adore. Moi, je regrette pas du tout. Enfin, à Bordeaux, la qualité de vie est incroyable. Et même si je suis toulousaine, je me verrai pas dans une autre ville. Aujourd'hui, ça va faire la troisième rentrée scolaire que j'ai créé le cocon. Donc, il y a un concept de crèche adossé à un coworking pour simplifier la vie des jeunes parents, qu'ils soient entrepreneurs, indépendants ou salariés en télétravail. Et en fait, ce projet est né d'un constat personnel, comme beaucoup de personnes qui entreprennent rencontrent une difficulté, évaluent le besoin et se disent, tiens, est-ce que je pourrais pas lancer cette solution, que ce soit un produit ou un service? Et en fait, moi, la difficulté que j'ai rencontrée, ou plutôt la difficulté qu'on a rencontrée avec mon mari et notre enfant de 18 mois à l'époque, quand on a emménagé à Bordeaux, c'est que donc lui se déplaçait entre 3 et 4 jours par semaine sur Lille et Paris. Et moi, j'étais freelance à mon compte. Donc, à cette époque-là, j'avais quitté le cabinet. J'étais freelance pour des cabinets d'expertise comptable où je faisais des missions de fusion-acquisition. Et en fait, on a été confrontés à l'absence de mode de garde. Et donc, on a décidé que ce soit moi qui arrête de travailler, puisqu'en fait, on n'avait pas de mode de garde. Et pour moi, en fait, travailler sur mes missions en freelance, sachant que la fusion-acquisition, c'est pas non plus des horaires plan-plan, et garder mon fils qui, en plus, est à 18 mois, on fait qu'une sieste l'après-midi. Enfin, c'était impossible. C'était trop frustrant. Et comme mon mari se déplaçait pas mal et avait une dizaine de salariés et gagnait plus sa vie que moi à l'époque, même encore aujourd'hui, et ben on a pris cette décision commune de se dire que c'était moi qui arrête de travailler pour garder notre fils le temps de trouver un mode de garde. Donc ça a duré quelques mois. Et donc moi j'adore aller à la rencontre de personnes, mais notamment de femmes. Et en fait, quand j'étais en cabinet, j'ai accompagné des porteurs de projets à la création d'entreprises et j'ai accompagné aussi des dirigeants d'entreprises à vendre ou à acheter d'autres entreprises. Mais bon, bref, j'étais toujours dans cet accompagnement et j'étais quand même aussi bien inclus dans le domaine de la création d'entreprises. Et donc, quand je suis arrivée à Bordeaux et justement où j'ai dû arrêter de travailler, je me suis dit, ben, je suis avec mon fils. Moi, j'aimerais bien qu'il se sociabilise, qu'il rencontre d'autres enfants. Moi, j'en ai marre aussi d'être seule. Et je me dis, il y a bien des mamans ou des papas qui sont tout seuls avec leurs enfants comme moi, qui ont dû arrêter de bosser. Et donc, pourquoi pas, allons dans un salon de thé, mangeons des gâteaux, discutons, mais au moins, à ne pas travailler, bah, au moins, éclatons-nous ensemble, quoi. En fait, j'habitais au-dessus d'un salon de thé. Donc, je leur ai demandé si ça allait déranger, d'organiser des goûters, chez eux. Et bien sûr, ils m'ont donné leur go. Et donc, j'ai commencé à lancer des invitations dans des groupes Facebook. Et donc, au départ, on était 8. Et puis après, ben, on allait dans des parcs. On s'est retrouvés à 40, 45. Et c'était génial. Et donc, j'ai commencé à vraiment identifier que la plupart des mamans qui se rencontraient, puisqu'on était ben, quasiment que des mamans, il faut savoir qu'en France, il y a un enfant sur deux qui est, on va dire, formellement accueilli. Donc, les autres sont accueillis. Soit par le grand-père, la grand-mère, la voisine, la tante, la copine, ou pas du tout accueillie. Et en fait, dans 95% des cas, c'est la maman qui arrête de travailler. Donc, il y a beaucoup de mamans qui arrêtent de travailler absence de mode de garde. Et donc, forcément, bah, ces goûters, j'ai rencontré plein de mamans qui n'avaient pas de mode de garde et qui, bah, du coup, galéraient ou bricolaient dans leur carrière professionnelle. Et je me suis rendu compte aussi que beaucoup d'entre elles échangeaient des best practices ou se disaient, tiens, moi, je sais faire ça, je pourrais t'aider sur ça, etc. Il y a vraiment toute une émulation qui naissait. Et moi, je trouvais ça fantastique. Et je dirais pas un matin, mais presque, je me suis dit, mais en fait, j'ai vraiment envie d'ouvrir un lieu où elles se rencontrent, où elles s'épanouissent, où elles échangent des best practices, où elles s'entraident. Et finalement, le point commun entre nous toutes, c'est qu'on n'avait pas de mode de garde. Donc, il fallait qu'on puisse aussi bah, accueillir nos enfants. Et l'idée est née comme ça. Et puis après, de fil en aiguille et au fur et à mesure des échanges, de rencontres avec les élus municipaux, la CAF, la PMI, discussions que j'ai pu avoir avec d'autres entrepreneurs et même des parents tout court qui n'avaient pas de mode de garde, bah, en fait, mon projet s'est dessiné. Du coup, j'ai conceptualisé un peu ce que j'avais envie de faire. Puis voilà, puis j'ai travaillé dessus. J'ai cherché pendant plus d'un an un lieu. Et puis après, j'ai rencontré les propriétaires associés de la Villa Maria. Et c'est là que ben, le projet a pu naître. Donc, j'ai pu réaliser, on va dire, la preuve de mon concept et le fait que je réponds à un vrai besoin. Et donc là, on entame la troisième année de rentrée scolaire. Et voilà, et c'est fantastique.
Psst, j'ai quelque chose pour toi. Si en ce moment tu galères un peu avec ta communication et que tu te sens perdu, je t'ai concocté un test où tu pourras évaluer ton niveau de kiff et ton impact dans ta com. Je te mets le quiz directement dans les notes de cet épisode. Grâce à lui, tu pourras avoir ton profil de communicante et des astuces adaptées à ta situation du moment, ainsi que des actions concrètes à mettre en place pour booster ta visibilité. Allez, n'oublie pas de télécharger ton quiz.
J'ai pris des précieuses notes parce que justement, le but de cet échange, c'est que tu nous partages aussi les étapes de la création du cocon et ton parcours du combattant, mais aussi qu'on puisse mettre en lumière toi, ta propre réinvention et les émotions que tu as ressenties. Parce qu'on a beaucoup l'habitude de dire, bah voilà, on claque mon doigt, ça y est, ça s'est fait, mais c'est pas forcément ça. Et tu nous expliques aussi que, pas un matin, mais presque, tu t'es dit, ben, je vais aller organiser des goûters dans le salon de thé juste en bas de chez moi. Mais avant ça, tu nous parles aussi du fait que tu as dû arrêter ton job de freelance, tu as dû un petit peu te résigner à arrêter de travailler et qu'il y a 95% des mamans sans mode de garde qui doivent faire ça. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu tes émotions à ce moment-là? Et surtout, ce que j'entends un petit peu entre les lignes, c'est la dualité entre, ben, ok, j'ai envie de rêver grand, mais j'ai aussi des obligations familiales. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ces émotions qui étaient en train de bouillonner peut-être à l'époque?
Elle bouillonne encore un peu, hein, et puis après, sur ce que tu viens de dire, c'est en fait, ça fait partie de la maternité, c'est l'ambivalence de la maternité. Et en fait, quand on devient maman, ou peut-être papa aussi, hein, c'est vraiment toute cette réinvention, ce rapport à soi, à ce qu'on a vraiment envie de faire dans la vie, parce que bah, le temps nous est vraiment compté, et réellement. Et je pense que ça soulève énormément de questions, et il suffit après de vivre une situation spécifique, professionnelle ou même personnelle, pour encore plus bousculer en fait cet événement qui nous bouleverse, qui nous transforme physiquement, physiologiquement, émotionnellement, personnellement, etc. C'est vrai que moi, ma maternité m'a beaucoup bouleversée. Déjà à l'époque, tous les podcasts sur la maternité, les vêtements pour femmes allaitantes, etc., ça n'existait pas. Et donc, forcément, l'information n'était pas aussi présente et d'ailleurs omniprésente comme aujourd'hui. Et moi, j'ai pris une sacrée claque avec ma maternité puisque voilà, j'avais une belle carrière dans un cabinet et arrêter de travailler, ça a été quand même assez un coup dur pour moi. Voilà, j'ai toujours eu des ambitions, j'ai toujours voulu réussir professionnellement et je pense que c'est lié aussi à mon enfance où j'ai eu voilà, une maman qui nous a élevés seule et qui n'avait pas fait d'études et qui nous a toujours poussé à en faire pour réussir professionnellement. Donc pour moi, en fait, c'était viscéral ça l'est toujours d'ailleurs, de vouloir réussir et justement, ma mère nous a toujours poussé à nous dépasser et à réussir. Donc, en fait, c'était même pas un sujet. Et le fait d'arrêter de travailler et de se dire qu'en fait, statistiquement, ça concerne aussi énormément de femmes et que finalement, ça engendre des inégalités professionnelles hommes-femmes. En fait, pour moi, c'était un peu, c'est la révolte en moi, en fait. C'était de se dire, c'est un peu une injustice, alors qu'en fait, c'est juste, physiologique en fait, c'est parce que les femmes portent les enfants, mais demain ça serait les hommes qui porteraient les enfants. Est-ce qu'on vivrait aussi cette même forme d'injustice? Je ne suis pas sûre. Donc en fait, pour moi, ça a été vraiment un chamboulement, un état émotionnel où je me suis dit, mais en fait, c'est pas logique, c'est pas normal. Et c'est pas parce que les femmes portent les enfants qu'elles doivent subir des injustices. Et voilà, et donc pour moi, créer le cocon, c'est aussi renverser cette injustice et se dire que ben, peut-être qu'à mon échelle, j'apporte, on va dire, je change peut-être significativement pas grand-chose, mais en attendant, j'apporte une solution à des personnes pour lesquelles ça peut changer.
Contribuer à son échelle, faire bouger les lignes, c'est quand même des choses que je retrouve beaucoup dans les réinventeuses que j'interviewe. Mais au début, on n'a pas forcément conscience de l'impact qu'on peut avoir avec son projet. Toi, tu nous as expliqué au début que ça partait de, ben, je suis maman à la maison, j'ai pas envie juste de me résigner à être seule, j'ai envie de rencontrer des personnes. Comment est-ce que tu es passée de l'idée, enfin du besoin, ok, il y a un besoin pour les parents qui n'ont pas de mode de garde et qui veulent travailler, à justement l'idée et ensuite à l'exécution. Qu'est-ce que ça a été un petit peu le cheminement pour toi?
Bah, le cheminement en soi, c'est vrai qu'avec du recul ou même en échangeant avec d'autres personnes, il y en a beaucoup qui me disent finalement, t'as pas mis beaucoup de temps pour un projet aussi lourd. À dire administrativement ou réglementairement. En fait, pour moi, ce projet, le cocon, c'est mon projet de vie, en fait. On va dire que cette idée, elle a germé et je me suis dit, bah, de toute façon, après, j'avais aussi cette envie d'entreprendre depuis des années. C'est-à-dire que même quand j'étais en cabinet, que j'accompagnais des porteurs de projets, pour moi, je savais déjà que j'allais un jour entreprendre. C'est juste que j'avais pas eu l'idée ni le déclic. Et pour moi, ces expériences, notamment mes 3 dernières années en FUSAC, pour moi, j'avais choisi ce poste pour justement acquérir de nouvelles compétences et me former pour justement entreprendre. Parce que je savais que ça allait m'apporter du bagage. Donc j'avais quand même envie intrinsèquement d'entreprendre. Et puis après, il y a aussi mon mari, lui, qui est entrepreneur depuis toujours, qui a créé sa première boîte pendant son année de césure en école de commerce. Et donc moi, je vis en fait avec un entrepreneur. Et en fait, ses étoiles dans les yeux, quand je l'ai rencontré, qu'il avait pour sa première entreprise, moi, je me suis dit, un jour aussi, j'ai envie d'avoir ses étoiles dans les yeux. C'est-à-dire que deux paramètres, plus le déclic, ces rencontres font que, en fait, pour moi, c'était, je me suis même pas posé de questions, en fait. Je me suis dit, bah, en fait, j'ai envie de faire ça. Et puis après, c'est juste qu'il fallait bah, trouver un lieu. Donc après, moi, c'est vrai qu'après, j'ai une formation qui fait que dire que j'ai pas peur de poser par écrit tout ce que j'ai à faire. Puis j'ai pas peur non plus de passer à l'action. Donc c'est vrai que pour moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peinent aussi à passer à l'action et qui ont énormément de croyances, de doutes, etc. Mais je pense que ça, c'est aussi lié à un travail personnel qui doit être fait. Et c'est vrai qu'avant, au moment où j'ai entrepris, moi, je me suis fait accompagner par une coach de vie, justement parce qu'aussi j'avais des croyances limitantes et des doutes. Et je crois que ce travail personnel, il est important à faire. Et on ne peut pas entreprendre sans avoir travaillé un minimum sur soi. Parce que déjà, en plus, ben, quand on passe à l'action et qu'après, on passe en phase d'exécution, en fait, il y a tellement de sujets. Parfois, on se prend notre propre miroir en face. Et en fait, si on n'est pas clair avec soi-même, et si on ne se connaît pas un minimum, en fait, les étapes, elles sont de plus en plus dures. Et aujourd'hui même, je me fais accompagner hein, encore, parce que j'ai fait le choix de me faire accompagner en profondeur pour me recentrer sur moi, parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est comme un oignon, en fait. À chaque fois, on épluche une couche et on apprend de plus en plus à se connaître. Mais sauf qu'on n'arrive jamais au centre.
Et c'est fou parce que c'est tu fais une merveilleuse transition sur ma prochaine question parce que selon moi effectivement se réinventer ça veut dire aussi partir à l'exploration de qui nous sommes, c'est partir à la découverte de soi, les choses qu'on n'apprend pas à l'école et même si on va en école de commerce, c'est pas forcément il y a pas un module sur la découverte de soi. Donc tu nous parles du fait de t'être fait accompagner. Mais comment tu as vécu justement cette quête de toi-même et quelle a été la chose peut-être que tu as appris sur toi et que tu souhaiterais nous partager et aussi peut-être ce qui t'a amené à te dire effectivement j'ai à un moment besoin de me faire accompagner, c'est je le ressens quoi.
En fait, moi, la maternité, elle m'a chamboulée. Donc, à partir de ce moment-là, je savais qu'il y avait des choses sur lesquelles j'avais besoin de travailler parce que au-delà de l'aspect professionnel, il y avait ma vie personnelle qui rentrait en ligne de compte. Et j'avais pas envie, en fait, de vivre une maternité en silence, en souffrance. Donc, voilà. Et donc, tout simplement, pour moi, c'était assez logique et sensé de me dire, ben, en fait, si j'ai besoin d'être accompagnée sur un sujet, en fait, je me poserai même pas la question si c'est la honte ou pas. En fait, j'irai et puis je verrai ce qui se passe. Et puis après, sur l'accompagnement, je dirais que tout au long de mon parcours entrepreneurial, je me suis fait accompagner. Alors, parfois, il y a des périodes moins, mais d'autres plus. Et je crois que c'est lié tout simplement à l'écoute. Enfin, je m'écoute en fait. C'est-à-dire que quand je ressens le besoin d'échanger ou de partager quelque chose que je vis mal, ben, je me dis, tiens, c'est peut-être le moment de discuter avec cette personne ou de me faire accompagner et de chercher le bon accompagnement qui me convient. Parce qu'en fait, ces situations ou cette situation, s'il y en a une en particulier, elle se présente à moi et en fait, il faut que je la travaille. Après, je crois aussi le fait que même j'ai beau être accompagnée, que ce soit par mon mari, que ce soit par le réseau Entreprendre, où j'ai été lauréate pendant 2 ans, je crois qu'aussi quand on est chef d'entreprise et qu'on n'a pas d'associé, et c'est le cas pour moi, je suis seule à la tête de mon entreprise, je pense qu'il y a plein de moments où même j'ai beau avoir un partenaire de vie à qui je peux confier des choses, je me sens quand même au quotidien assez seule. Donc pour moi, je me suis dit, bah, je pense que si je suis seule au quotidien, peut-être que d'avoir des moments, des bulles de confiance, comme j'appelle, où je peux me confier à quelqu'un sans jugement, ou rien que même me délivrer émotionnellement, peut-être que ça me ferait du bien. Et puis après, mon mari lui aussi se fait accompagner par un coach. Et après, dans les podcasts, c'est vrai que j'écoute pas mal de podcasts d'entrepreneurs. Il y en a pas mal qui disent qu'ils se font accompagner, que ça leur fait du bien. Donc, moi, je me suis dit, bah, en fait, ça me paraît logique. Enfin, voilà. Pour répondre à ta dernière question sur ce que j'ai appris dernièrement, on va dire que depuis que j'ai entrepris, hein, depuis bientôt 3 ans, il y a énormément de choses que j'ai appris sur moi, énormément de situations qui m'ont amené à me poser, à réfléchir, même à douter, hein. Mais je dirais que dernièrement, si je dois parler de quelque chose qui m'est arrivé récemment, je me suis rendu compte que parfois, dans certaines situations ou avec certaines personnes, j'ai manqué de clarté. Et non pas parce que c'était volontaire, mais plutôt parce que j'avais peur du regard ou de la réaction de la personne. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que ça me dessert. Parce qu'au final, où j'ai réalisé des actions, où peut-être pour la personne, j'ai manqué de clarté, mais ce n'était pas volontaire, c'était plus par peur. Et au final, ça m'a desservi puisque je ne me suis pas retrouvée dans cette situation. Enfin, je ne me suis pas retrouvée moi-même. Et au final, la personne, elle n'a pas compris mon action, en fait, ou mon inaction plutôt. Mais bon, bien sûr, après, il n'y a rien de grave. Mais je me suis rendu compte que la posture de chef d'entreprise, en fait, le passage de freelance à chef d'entreprise, et notamment en ayant une équipe maintenant de 6 personnes, est assez costaud. Et en fait, c'est vrai qu'on est un peu au sommet d'une toile d'araignée. Il faut tout coordonner entre les clients, les fournisseurs, les salariés, les personnes qui vous contactent, les prospects, et puis tout en réfléchissant à comment je pérennise mon activité, comment je fais ça, comment je fais en sorte que tout le monde se sente bien, que en fait la réponse elle est que en fait c'est pas possible de tout faire. Mais voilà, il faut l'accepter et surtout le communiquer. En disant que bah c'est pas acceptable, c'est pas possible et voilà.
Est-ce que justement, quand tu nous parles de la posture d'entrepreneur, c'est un petit peu aussi l'affirmation de soi et ben, le fait de d'encore plus faire passer ses idées, être beaucoup plus ferme, on va dire exprimer aussi son leadership de CEO. Est-ce que c'est un peu ça que tu veux dire par le partage que tu viens de nous faire ou c'est pas forcément ça que tu as en tête?
Ouais. Si, si, c'est ça, et sans parler même d'être plus ferme, c'est juste être plus clair en fait. Et la clarté, quand je dis la clarté, ça ne veut pas dire que je ne passais pas le message.
D'accord.
Je communiquais, je disais les choses. C'est plus dans la façon de le faire. C'est-à-dire que, en fait, maintenant, les choses doivent être dites dès le début, quoi. Voilà. Et parfois, on a tendance, bah, justement, quand on est un peu sur le feu, la tête dans le guidon, et un peu sur tous les sujets, on va avoir tendance à se dire, bon, bah, ça, je verrai un peu plus tard parce que j'ai ça à faire, et on a l'impression un peu de jouer aux pompiers. Alors qu'en fait, non, l'apprentissage, c'est que au final, on ne peut pas tout faire, et qu'à partir du moment où on est clair sur les choses, peu importe la personne qui reçoit le message, au moins, bah, en fait, si les choses elles sont dites, la personne, elle attend rien de nous. Et nous, bah en fait, on remplit nos exigences, quoi.
Et du coup, ça me fait penser aussi, tu parlais de sommet, de fait de, bah maintenant, en fait, c'est toi qui es aux commandes et encore plus maintenant parce que tu as une équipe de 6 personnes. Comment justement tu gères ou tu surfes sur tes montagnes russes émotionnelles?
Une bonne question. Bah déjà, moi, je fais du sport tout les semaines, donc ça c'est vraiment hyper important pour moi. Donc je fais un minimum 2 séances de sport par semaine. Donc je pratique le yoga et je fais du running. Il y a quelque chose aussi que je fais beaucoup, notamment quand j'ai des bas. Je fais de la cardiofréquence et de la méditation et ça me fait beaucoup de bien. Ça diminue beaucoup l'anxiété, le stress, et vraiment quand je fais mes séances, j'ai l'impression après d'avoir un peu comme si mon cerveau il avait fait un reset. Si j'ai une situation particulière que j'aimerais traiter et résoudre, ben, en fait je repars sur le factuel et je me dis ben, en fait comment je peux gérer cette situation au mieux pour qu'en fait ça se passe bien. Et après ben l'accompagnement, la bulle de confiance.
J'ai bien aimé cette,
Oui.
cette appellation que tu donnes, la bulle de confiance. Mais tu as été hyper honnête aussi en nous disant que, en fait, on ne peut pas tout faire. On a tendance à idéaliser un petit peu la superwoman, entrepreneur qui fait tout. Mais ce n'est pas forcément le cas. Et d'ailleurs, ici, le but, c'est d'inspirer, mais aussi de montrer la part de réalité. Est-ce que tu peux nous partager peut-être une semaine type dans la vie de Marine, la CEO et créatrice du cocon?
Bah, ces dernières semaines ont été assez intenses. Et du coup, là, justement, je suis en train un peu de travailler sur mon organisation, la gestion de mon temps et sur ce que vraiment j'ai envie de faire et par rapport à l'ambition du cocon. Parce que parfois, j'ai l'impression de faire des choses qui en fait me déconcentrent de mon objectif. Surtout quand on est en permanence sollicité, bah, parfois, il faut savoir dire non. Et donc après, il y a une semaine type, bah, moi le lundi matin en général déjà le dimanche soir, je prépare ma semaine. Donc c'est-à-dire que le dimanche soir, j'ai regardé mes boîtes mail et j'ai tout épuré. Je suis un peu l'école du inbox zéro. Donc moi, il faut que le lundi matin, si j'ai 20 mails qui m'attendent, déjà la journée pour moi, même la semaine, elle commence pas très bien. Donc j'ai besoin le dimanche soir de regarder mes mails pour me dire bah, si lundi matin j'ouvre mes mails, c'est que des mails que je reçois lundi matin et pas vendredi soir, samedi ou dimanche. Et après, je prépare ma semaine, je me dis tiens, quels sont mes rendez-vous, qu'est-ce que j'ai à faire, si je prépare aussi mes moments à moi, mes moments de sport, mes moments perso. Bon, je le fais aussi le vendredi après-midi hein, quand je fais mon admin, mais c'est vrai que le dimanche soir, je revois un peu ma copie et par rapport aussi dans le week-end à ce que j'ai pensé. Je me dis, tiens, cette semaine, je pourrais faire ça. Et puis après, j'ai des plages horaires sur mes journées. Donc moi, je raisonne beaucoup en demi-journée. Donc il y en a qui raisonnent en 2 heures, d'autres en journée, d'autres en demi-journée. Moi, en demi-journée, je gère voilà, par exemple l'activité de crèche, l'activité de coworking, l'activité de ma communauté ou de mon audience si on est sur les réseaux sociaux. L'activité développement, l'activité de nouveaux clients. Et donc, en fonction de ces créneaux, bah, du coup, après, j'ai des sujets à traiter. Le lundi matin, en général, je gère mes sujets crèche et coworking. Si j'ai des nouvelles demandes, si j'ai des leads entrants. Et puis, lundi après-midi, je fais mes réunions d'équipe. Donc là, on regarde par exemple, toutes les difficultés qu'on a rencontrées avec les familles, les professionnels, les besoins, etc. Le coworking, comment ça se passe. Le mardi matin, je traite tous mes sujets de coworking. Et le mardi après-midi, je fais des rendez-vous. Voilà, moi, en général, mes rendez-vous, c'est le mardi après-midi, le jeudi et le vendredi matin. Bon, c'est que mes créneaux de rendez-vous. Après, le mercredi, je m'occupe de tout ce qui est franchise et juridique. Et développement. Et puis le jeudi, je m'occupe pas mal du coworking et surtout aussi des parents et de mon audience, puisque c'est là où j'organise les ateliers business. Donc, c'est pas moi qui les anime, mais j'ai des membres bah, qui font partie de la communauté qui animent des ateliers sur des thématiques en particulier. Donc là, c'est vraiment, je passe du temps avec les gens du coworking, je déjeune avec eux, j'échange pas mal. Et puis après, je fais des rendez-vous. Et le vendredi matin, en général, soit j'ai des rendez-vous, soit je regarde un peu tous les sujets. Ça dépend de la semaine, des sujets un peu. Voilà. Et le vendredi après-midi, je fais mon admin. Et en général, c'est le jour où je termine plus tôt, je vais chercher mes enfants à l'école. Et puis après, le sport, je le fais entre midi et deux. Le soir, après, en général, j'ai toujours une soirée pro j'ai une soirée aussi où j'aime bien sortir. Donc voilà, ça dépend vraiment. Après, je sais que. Moi, la journée, c'est tellement intense que le soir, parfois, je suis un peu claquée, quoi.
Et du coup, si on
Donc,
compare ta vie d'avant, quand tu étais dans un des Big Four, et ta vie de maintenant, qui est quand même hyper bien occupée, mais tu as l'air quand même épanouie, est-ce qu'il y a peut-être un mot ou une réinvention que tu pourrais dire avant, je me sentais comme ceci, et maintenant, je me sens comme cela, ou pas forcément?
pas forcément, parce qu'en fait, aujourd'hui, je travaille presque autant qu'avant. C'est juste qu'en fait, peut-être le mot, ça pourrait être la réinvention, c'est la flexibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je travaille, bah, par exemple, je vais chercher mes enfants à 18 h, je me remets à bosser à 21 h, alors qu'avant, bah, j'avais pas d'enfants, donc il n'y avait pas ce sujet. Et quand bien même, après, en cabinet, ça nous arrivait de terminer hyper tard. Mais je partais pas, enfin, si je partais à 18 h, forcément, c'était pas forcément vu. À l'époque, le télétravail n'était pas autant démocratisé qu'aujourd'hui, et grâce au Covid, c'est le cas maintenant. En fait, avant, quand j'étais en cabinet, je faisais que bosser. Je vivais pour le boulot. Aujourd'hui, c'est vrai que je vis pour le boulot, mais en tout cas, j'essaie de trouver des moments à moi, des moments aussi dans mon couple, des moments avec mes enfants, des moments où je fais du sport, des moments. C'est vrai que pour en fait pouvoir équilibrer au mieux aussi ce temps, et surtout pour pouvoir sortir un peu de mon monde, du monde du travail. Parce que sinon, en fait, on ne parle pas assez de la charge mentale des chefs d'entreprise, mais c'est une réalité. En fait, on pense boulot, on se lève boulot, on mange boulot, on dort boulot, et ça peut être dangereux.
Et surtout, tu nous dis que tu te fais accompagner, mais dans votre couple, vous êtes tous les deux chefs d'entreprise. Est-ce que tu aurais je sais pas, un conseil, une astuce pour justement décharger cette charge mentale ou pas forcément?
En vrai, nous, on parle beaucoup de boulot, mais on adore ça. Et en fait, si on pouvait, on inventerait une entreprise de toutes les semaines.
Alors, est-ce que tu peux nous partager du coup peut-être une phrase mantra qui t'a aidé dans tout ce cheminement et dans ton projet?
Ce n'est pas un mantra, mais c'est plutôt de se dire qu'à chaque problème, il y a une solution, une alternative. Même si ce n'est pas l'idéal. En fait, il y a forcément une alternative. Je peux répondre à.
Bah, tu nous as montré toutes les alternatives qu'il y avait. Du coup, dans la dernière minute, on va passer au ping-pong, donc le funk des idées. L'idée, c'est que je commence une phrase et que tu la finisses. Est-ce que ça te va?
Vas-y.
Avant de me lancer, j'aurais jamais pensé que
Avant de me lancer, j'aurais jamais pensé à vivre à Bordeaux.
le pire conseil que l'on m'ait donné, c'était
Que je ne pourrais pas y arriver.
ma plus grande peur, c'était
De ne pas y arriver.
quand j'étais petite, je rêvais que je serais.
Professionnellement épanouie.
Du coup, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu aurais un conseil à leur partager? Et ensuite, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver?
Lié auquel je pense, c'est vraiment se dire qu'en fait, il y a toujours une solution. Ça, c'est hyper important de se le dire dans la tête. Et je crois aussi que un des conseils que je pourrais donner, c'est de s'entourer. Et de pas rester seule avec ses doutes et ses peurs. Parce qu'en fait, parfois, d'évoquer le sujet avec une autre personne, ça permet en fait de se libérer déjà, de se libérer et de pouvoir répondre à sa propre question. Ouais. Et après, pour me retrouver, sur mon LinkedIn, donc Marine Alary, sur mon Instagram.
Et à Bordeaux?
Et à Bordeaux, et forcément. À Bordeaux.
Bah, très
Mais
bien.
de temps en temps, je vais aussi à Paris, donc ça peut être aussi.
Bah, trop bien. Et peut-être un projet de cocon à Paris, qui sait?
Qui sait? J'ai pas mal de demandes.
Ah ben voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange, Marine. Plein de pépites et plein d'inspiration pour les réinventeuses qui nous écoutent. Je te dis à très vite et je te remercie pour cet échange.
Merci Nathalie, bonne journée.
C'en est fini pour l'épisode du jour. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une pluie d'étoiles sur ta plateforme d'écoute ainsi qu'un commentaire. Je t'invite aussi à télécharger les ressources disponibles car sous chaque épisode, je te fais des petits cadeaux. Elles sont dans les notes juste en dessous. N'hésite pas à venir me voir sur Instagram @happylcfunky ou sur LinkedIn @NathalieMedaglia. Et en attendant le prochain épisode, je te souhaite une belle réinvention.
Bad bitch, you get money. Broke niggas to the love, we don't want it. I'm the one these bitches hate, but they can't get past. Pretty face, no waist, and a big old ass. Bad bitch, I could be a fantasy. I could tell you got big, deep energy. It ain't too many niggas that can handle me, but I might let